C'est donc du cours de psychologie médicale. Nous allons poursuivre avec différentes réflexions. Et l'idée, c'est vraiment de mettre votre pensée, votre esprit critique au travail, plus que de retenir les recettes par cœur. On n'en retient pas beaucoup, en fait, les recettes par cœur. Et donc, je vous invite vraiment à interagir, à parler, à vous exprimer, à poser des questions et à réfléchir sur tout. Ça va, c'est important. Alors, que soigner? Le malade ou la maladie? Bien sûr. Les études de médecine préparent-elles à soigner des malades ou des maladies? C'est toute cette dialectique entre ce que l'on a et ce que l'on est qui va émailler cette question de la psychologie médicale. Alors, ça c'est pour donner un exemple, au Japon, en 2015, fermeture des départements des sciences humaines, parce qu'ils ne rapportaient pas assez. Bon, on est là. Suicide d'une ado namuroise, harcèlement sur les réseaux sociaux. Bon, des perturbations comportementales, chez un étude de 2000 Belges, met fin à leur jour. 800 000 suicides annuels, enfin, c'est beaucoup ça. Les chiffres sous-estimés, plus on ne sont pas répertoriés, comme les meurtres, parce que s'ils ne sont pas répertoriés, quand on fait des enquêtes, des services de pathologie et des instituts qui doivent faire les autopsies, ils sont en moins d'effectifs et de moyens, mais que se passe-t-il comme souffrance derrière? Puis souvent, je m'attarde un peu là-dessus aussi. L'assurance maladie, faut-il exclure les fautes propres? Oui, c'est un exercice qui était fait aux Pays-Bas à un moment donné pour essayer d'estimer le prix d'une vie humaine. Pas plus de 80 000 euros par an aux Pays-Bas. C'est un seuil mental vraiment important. Et la question de la faute propre, c'est la faute qu'une personne commet si elle continue à faire quelque chose qu'on lui a pourtant déconseillé de faire.
Ça vous arrive parfois, ça ou... Il y en a un qui fume, par exemple, ici. Personne ne fume. C'est incroyable. Même pas du cannabis. Hein. Vous avez fumé aussi. Hein. Fumer, c'est pas forcément du crack, du cannabis, autre chose. Personne ne fume. Ah, là, ils montent du doigt, montrez plus fort, parce que sinon, c'est pas... Ah, c'est monsieur avec un... C'est vous? Non. C'est pas clair. Peu importe. Il y en a qui fument, mais il y en a qui vont aussi dans des bouchers, quand j'ai de la viande. Il y en a qui vont au fromager chercher du fromage. Parfois, il y a même du fromage dans le boucher, mais rarement de la viande dans des fromages, parce que c'est remarqué. Ceci. Il y en a qui continuent à aller acheter de l'alcool dans des lits de boissons sous forme soit de magasin. Soit sous forme de boisson, vous pouvez consommer quelque chose. Et donc, malgré un cholestérol trop élevé, ou malgré une glycémie trop élevée, il y a des gens qui continuent à aller dans les boulangers. Ils devraient s'intituler magasin de sucre, un truc comme ça, pour être beaucoup plus clair au niveau sanitaire. Et fromagerie, magasin de cholestérol et de glycémie. Et donc, jusqu'à quel moment est-ce qu'une société prend-elle sur elle de continuer à soigner par solidarité, c'est-à-dire avec mes impôts, qui payent vos études, puisque vous ne payez pas encore d'impôts, c'est aussi l'impôt de vos parents. Si vous payez des impôts, c'est la table. Et jusqu'à quel moment est-ce que ce mécanisme de solidarité peut-il exister à partir du moment où une personne continue à faire quelque chose qui lui est pourtant interdit pour sa bonne santé? Il faudrait lui faire un peu plus de sport, c'est bon. Il ne faudrait pas faire quelques kilos, il faudrait avoir de tension. Il ne faudrait pas fumer, ça peut être cancer. Ça mange trop de fromage, ça mange le cholestérol. Il ne faut pas boire d'alcool, parce que ceci, etc., etc., etc. Jusqu'à quel moment est-ce qu'une comportement d'une personne devient une faute, et qui va déterminer qu'il s'agit d'une faute au regard de quelle norme, au regard de quelle loi? Jusqu'à quel moment est-ce que ça autoriserait une absence d'intervention? Genre, allons, continuons le courage, pas de réanimation là-dessus, pas de garde pulmonaire, si vous êtes un AVC. Ou c'est pas pris en charge par la sécu. Vous avez déjà posé cette question? Hein? Et on fait un avis là-dessus? Une réflexion? Ou là, dans la vie, on porte pièce? Non, personne? C'est encore un peu gelé là, ça. Ouais. J'espère que vous exprimerez mieux par écrit que par oral, parce que ça m'inciterait à faire des examens oraux de fond. Parce que c'est important de pouvoir s'exprimer. En fond, vous allez être face à des gens dans votre métier en permanence. Et on vous apprend au moins les rudiments de la communication, de l'expression. Et puis ça commence par se parler à soi-même, parler à ses proches, ses amis, ses parents, ses familles, et puis éventuellement parler au cours. Mais je lui dis que c'est pas vraiment des cours, c'est des séminaires. Et donc, on parle à vous. Donc, cette question de faute propre nous parle du contrôle de la société sur le comportement d'une partie des personnes qui la composent pour pouvoir arriver à une santé qui serait meilleure. Bien sûr, il y aurait moins de dépenses si les gens faisaient moins de choses, mais nous ne rentrons pas directement dans une perspective d'origine totalitaire. Pourquoi contrôler ceci? Et puis dans le fond, le cholestérol c'est très bon, et le sucre un peu, et les polyphénols, ça n'a pas de tort. Donc, où mettons la norme? Alors, question aussi qui rejoint le médical et l'éthique. La justice marque sur la cloche, je vais passer ça. Hein. Vous hospitalisez un interné en vue de l'euthanasie. Alors, vous n'êtes peut-être pas familier avec le terme d'internement. L'internement fait référence à la loi de défense sociale. La défense sociale pour protéger la société de personnes qui ont des troubles mentaux sévères et qui ont commis des actes à l'encontre de la société. Donc un juge d'instruction qui peut priver de liberté et conduire cette personne vers un internement dans un institut de défense sociale. Et donc, faute de proposer un traitement qui soit éventuellement adapté, c'est une demande d'euthanasie qui est faite. Et s'y pose la question un petit peu cynique et un peu ironique, mais dans le fond, pour cette personne-là précisément, le traitement à l'issue qui était proposé, c'était l'euthanasie. N'est-ce pas un aveu de « il n'y a pas de traitement, on ne sait rien faire avec vous » pour quelqu'un qui a commis des faits avec, en compte de la société. Et pour qui il dit, maintenant, ce n'est pas ma faute, moi je suis comme ça, vous ne savez pas me traiter, je vais continuer à faire du mal, donc j'ai quelque chose à faire, c'est tuez-moi. Enfin, c'est pas un peu une peine de mort à l'envers qui est travestie avec quelque chose de sanitaire. Ça pose question, cette affaire. Ça pose question. Comment réfléchir cette question d'un accompagnement décent dans la mort, dans une circonstance ici, où on n'est pas dans le cas d'une maladie incurable au sens commun, un cancer, une malformation, une dégénérescence progressive d'un truc, etc. Donc, comment comprendre cela? L'acte médical est un fait psychologique. Médical, c'est assurément, dans la plupart des cas, un acte scientifique, il est aussi à degré divers, un acte social est toujours un fait psychologique. On ne peut pas retirer la psychologie de la médecine. D'ailleurs, historiquement, forcément, la psychologie faisait intégralement partie de la médecine, et c'est pas la faculté de psychologie
C'est progressivement dans l'histoire que ces facultés se sont structurées pour enseigner en dehors du cadre de médecine la psychologie. Ce qui, vous le verrez, peut conduire à différentes impasses relationnelles dans ce qu'on appelle le transfert, ce qui est transféré de soi sur l'autre, c'est le transfert, le contre-transfert, avec une certaine dose d'impulsivité ou de violence que l'on reçoit de la part de l'autre et le support de représentation que l'on peut constituer pour l'autre individu qu'on a en face de soi. Et donc, cette question du fait psychique ne doit pas obscurcir votre responsabilité en tant que soignant de pouvoir inclure cela complètement dans une approche global avec votre interlocuteur. Un mécanisme détourné pour pouvoir se débarrasser d'une personne dont vous auriez éventuellement la charge et qui vous encombre quelque peu, soit qu'elle sente mauvais, soit qu'elle soit désagréable, soit qu'elle vous rappelle quelqu'un qui vous était désagréable, soit que son comportement vous excède, que sais-je encore, que vous passez dans une enquête de relation. C'est de transférer la prise en charge à quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas trop facile, bien sûr. Ah, vous savez, je suis totalement incompétent pour vous aider. Par contre, ça marche aussi. Je connais un excellent confrère ou une excellente consoeur qui pourra vous aider. Alors là, soit vous avez prévenu l'autre. Alors, si c'est un coup un petit peu fort. Genre, si la personne se travaille avec des sabres ou des couteaux, voilà, quand même menacer quelqu'un, genre, bon, vous faites peur, c'est légitime. C'est relativement sympathique de prévenir la personne compétente qui vous l'envoie. C'est jeune. C'est jeune. Mais ce faisant, vous pouvez vous dire, oh, écoutez, ça c'est en dehors de mon domaine de compétence. Je vois que vous avez des difficultés pour vous exprimer, vous parlez, je suis plein d'émotions, là, je ne sais pas quoi faire avec. Allez voir un psy. Psychologue, psychiatre, on pourra déjà se poser la question. Et ce faisant, vous évacuez quelque chose de la relation avec l'autre, alors même que, en dehors du champ psychique, et dans une médecine qui serait plus somatique, genre on touche, on parle, on auscule, on pique, c'est différent d'être assis dans un fauteuil et de partout chez l'autre, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Dans ce champ, et vous le verrez, où on a un contact physique, au sens où je viens de déterminer, bien évidemment, avec l'autre, peut se passer toute une série de choses qui rendent l'interlocuteur professionnel comme demandeur, le patient demandeur de venir vous voir, plus sensible, plus réceptif à un questionnement et une réflexion sur son état. Cela est dû, à, et on le verra, à ce déséquilibre fondamental qui existe entre le demandeur et celui à qui on demande. Si vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous êtes en attente. Ce que veut dire la personne a un poids différent, une qualité différente. Vous allez être vigilant, attentif. Et peut-être que quelqu'un doit refléter la même chose 100 fois avant, conduisant à ce que le truc, je te l'avais dit, mais moi, tout m'écoute jamais. Vous avez déjà eu sur le jeu ? Bon, il y a des gens qu'on écoute, il y a des gens qu'on n'écoute pas. Et ce faisant, dans le dispositif médical, il est construit sous forme de quelqu'un qui demande quelque chose à une autre personne, qu'elle croit compétent, parce que ce n'est juste un supposé savoir. Vous auriez beau ne pas être compétent, vous commencez avec un déséquilibre fondamental où l'autre pense que vous êtes compétent. C'est comme ça que ça marche. Une sorte de pompe aspirant et refoulant. Encore faut-il assurer. Derrière. Dans ce déséquilibre important, et cette demande étant là et vous précédant, c'est-à-dire qu'avant même d'avoir rencontré l'autre, il est important de voir que ce moteur va conduire à une mobilisation, à des attentes de la part de l'autre, et que cette intensité dans l'attente, dans la demande, va conduire à pouvoir mobiliser des choses chez l'autre. Et c'est ainsi que le médecin, particulièrement le médecin qui aura un contact, le médecin est pris au sens ici prototypique, hein, un infirmier, un kinésithérapeute, toute personne avec ce rôle soignant qui va avoir ce contact, aura un moment privilégié. Parler du ventre, par exemple, ou toucher le ventre, et puis parler de douleur, de difficulté, de gargouille, n'a absolument pas la même, le même impact, la même répercussion sur l'autre. Et donc, j'en reviens à cette question de l'évacuation du phénomène psychique, vous le verrez, dans les modes de relation à l'autre, dans les modes de transfert. C'est une manière de mettre de côté, alors qu'il est impossible de vous passer de ce rôle-là, quelle que soit votre spécialité, médecine générale ou autre, bien sûr. Alors, le malade et la maladie, pour le médecin, emporté par un désir d'impartialité objective et scientifique, le malade tend souvent à disparaître devant la maladie. Il s'agit d'une analyse rigoureuse et impersonnelle, quasi vétérinaire, de ces latins d'un organe. La lésion, pour préciser la cause, une thérapeutique obligatoire en découlant automatiquement. C'est l'attente, ça. Problème, solution. Problème, solution. Demande et réaction. Le malade est donc vu en pièces détachées. Vous voyez que ce texte de 1955, rien de bien nouveau, la complexité des moyens techniques exigés pour tout diagnostic conduit à une multiplication des spécialistes. Si bien que le malade tend à être étudié en pièces détachées, que l'on pourrait à la limite rêver de quelques cerveaux électroniques pour intégrer les résultats et en tirer les conséquences. Instrument idéal pour permettre à l'État de veiller aux besoins malgré eux, à la bonne forme des producteurs, c'est-à-dire vous-même, moi-même, avec une montre connectée, une balance connectée, et vous essayez connectée, renseignement connecté, vous connectez beaucoup de choses. Pour avoir plein d'informations qui seront éventuellement récoltées pour agir plus tôt, puisque l'État éventuellement dentaire a rejeté un reflux éventuel ou une santé cardiaque. Tout ça est de l'ordre du, n'est plus de l'ordre du fantasme, c'est de l'ordre de l'investissement. Alors, conduisant à cette demande de lien, d'humanité, la médecine est devenue inhumaine, des malades négligés sur l'hôpital, humiliés, mal traités, inacceptables, manque de personnel, de formation psychologique, soignés passent aussi par de petites attentions, un geste, une parole, un sourire. Pensez-y. Pourquoi les médecins sont si peu psychologues, les médecins parlent pas, c'est ça qu'on fait. Vous faites la médecine, hein, c'est juste ça. Ouais, bah regardez, déjà maintenant, les gens vous connaissent pas mal. Vous ne parlez pas beaucoup, hein. C'est pas effrayant. Alors ceci, c'est un livre que vous pouvez vous procurer sur l'inentendu. Alors maintenant, vous allez me dire, le plus perspicace, si la personne ne parle pas, c'est normal qu'on n'entende pas. Mais ici, on parle d'autre chose. On parle dans la relation médecin-malade de ce qui n'est pas dit objectivement, de ce avec quoi le patient, d'autres clients, en fonction du modèle thérapeutique. Et récemment, avec un étant au congrès de Père Lénan à Reims, les gens voulaient faire un peu des acteurs, en disant nous, on n'est pas des patients, parce que ça nous renvoie à cette démarche inégalitaire, c'est pas des clients, on renvoie à une démarche commerciale, on est des acteurs. Bon, c'est tout un débat, je suis à mode. Déjà, certains, au Canada, c'est d'intégrer de plus en plus dans les équipes ce qu'on appelle, vous avez déjà entendu, des experts d'expérience, des pères aidants, vous avez déjà entendu ça ou pas? Levez un peu la main qui a déjà entendu ça. Oui? Alors, ça veut dire quoi, monsieur? Parlez fort, surtout si vous n'avez pas le Covid.
J'ai entendu brièvement au Canada, ils essayent d'acheter plus les patients dans le système de santé.
Voilà. Et donc les pères, ce n'est pas les papas, c'est P-A-I-R-S, aidants, ce sont les mêmes qui vont aider. Sous-entendu, la personne qui a déjà décompensé sur un mode maniaque, qui, sous le coup de la loi du 26 juin de surveillance, s'est fait priver de liberté par un procureur du roi, enfermé en lieu de force dans un hôpital psychiatrique, où il était bien en isolement, et puis traité par des médicaments, neuroleptiques, stabilisateurs de l'humeur, etc. Elle pourrait, et elle est, question à mettre en place. Elle est mieux aidée et sa situation est mieux appréhendée à partir du moment où elle pourra être en contact à un moment donné avec une autre personne qui a subi la même chose. Donc, dans le rôle de coordinateur de soins dans lequel le médecin de demain que vous êtes va être mis, en coordinateur, parce qu'il n'en aura pas assez, parce qu'on est résolument dans un perspective d'équipe multidisciplinaire. Vous aurez non seulement les patients à prendre en compte, bien sûr les familles, les proches, mais également inclure dans les équipes de soins des pères aidants. Là aussi, c'est pas juste les aidants proches, des proches de la famille, proches d'un individu disciple qui est l'objet de soi, et où les aidants proches vont pouvoir agir. Genre, l'époux, le mari, l'enfant, donc la tante qui va aider une personne âgée à domicile, ou une personne avec un handicap, handicap physique, handicap psychique, comme je le précisais dans le cas de l'exemple que trouve Nicolas. Donc c'est une composante à inclure dans les soins avec toute une série de questions déontologiques, éthiques. Est-ce qu'on va considérer comme un patient ou un membre de l'équipe de soins? Cette personne a-t-elle accès au dossier patient informatisé? Peut-elle lire des choses, bien qu'elle juste pour apporter de l'information? Est-ce qu'elle prend la place d'un autre soignant au niveau d'une équipe de soins alors qu'il manque déjà de soignants? Mais ce n'est pas une solution, puisqu'il manque déjà tellement de soignants, mettons des patients à la place. Bonne idée. Etc. Ça pose éventuellement d'autres questions. Mais toujours est-il que il arrive que des réponses multiples puissent être données à cette difficulté, à ce malaise entre le soignant et le soigné. Et la pérédance, les experts d'expérience, qui font tiers, ça veut dire qu'ils ne sont pas impliqués dans la relation duelle que l'on identifie entre le médecin et le patient. Les pères aidants, donc, vont pouvoir jouer ce rôle d'humanisation, d'explication des processus de soins. Alors,
monsieur,
un point.
J'ai une question. question dans ce cas-là par rapport à... Vous avez directement posé le médecin comme étant le coordinateur de l'équipe. Si on veut viser une approche vraiment humaine et qu'on reproche au médecin d'être un technicien du corps, est-ce que ça ne serait pas logique, j'essaie de percevoir un peu la réflexion qu'il y a derrière, est-ce que ça ne serait pas logique de dire par exemple que ce serait le psychologue qui serait coordinateur de l'équipe multidisciplinaire?
Quelle logique mettez-vous derrière ça?
C'est la, toute la question de, d'une médecine humanisée, tournée vers le patient, à l'écoute, avec finalement, puisque même des patients peuvent être inclus dans l'équipe soignante, des anciens patients, plutôt des pères aidants, pourquoi est-ce que le médecin ne devrait rester le coordinateur? C'est la suite de la logique. Moi, je pousse à l'extrême pour voir si, s'il n'y a pas des idéologies, des absurdités dans les.
Alors. Vous êtes en médecine. Et donc, la profession est régie par la loi. Et il ne peut s'agir d'exercice illégal de la médecine. Et donc, la question est plutôt comment la médecine se transforme au fil du temps en incluant différents acteurs. Et donc, le rôle dans lequel est mis le médecin est souvent un rôle de coordinateur. Mais il n'empêche que des psychologues peuvent avoir des postes de coordination et d'un exercice par la médecine. Et le psychologue, comme l'ergothérapeute, comme la diététicienne, etc., font partie de cette équipe de soins. Et donc, c'est la question d'une collaboration, d'un partage d'informations, d'un secret partagé et d'une décision. Alors pourquoi collaborateur, pourquoi médecin? Parce que dans les décisions de soins qui vont être prises, ben ça reste le médecin traitant, le pilier central de la prise en charge pour la continuité des soins. Et les obligations légales pour être là pour le médecin a l'obligation de continuité des soins, l'obligation de transmettre sa note de consultation à un autre médecin. Pas forcément un autre avec une autre profession. Et tout ça est bien décrit à la fois dans la loi. Mais se transforment les pratiques avec ces échanges. Sachez que seul le médecin faisant cela peut se retrouver aussi débordé, donc il y a des mécanismes qui permettent aussi d'avoir de l'aide. Et donc, par exemple, dans les aides de soins à domicile, et les coordinateurs qui vont coordonner un petit réseau d'aide. Et dans cette coordination, vous aurez un infirmier, par exemple un assistant social, ou un psychologue, ou une, qui va faire le job, qui ne va pas exercer la médecine. Et donc, cette fonction de coordination est importante. Le médecin est, avant même son action, mis dans ce rôle. On n'attend plus de lui aujourd'hui qu'il exerce de manière patriarcale et impériale. On attend de lui qu'il exerce de manière collaborative, qu'il demande un consentement, qu'il ne prenne pas de décision à la place de l'autre, etc. C'est une dialectique entre cet aspect de paternalisme et un modèle de soins qui conduirait à plus. Alors c'est plus d'horizontalité, mais sans la déstructuration d'une absence de décision, puisque une décision doit être prise, mais elle doit être prise là sous forme d'une évaluation partagée d'un risque, par exemple. Un risque de sortir de domicile après une hospitalisation psychiatrique, où est-ce qu'on évalue si ce risque est toujours là, vous êtes bien sûr les échelles, vous êtes bien sûr sur l'évaluation clinique. Vous allez discuter en équipe l'évaluation du risque. Cette évaluation va être partagée. Donc le rôle du coordinateur devient un rôle plus entendu par défaut. C'est le plus distinct. Oui, mademoiselle.
Oui, pour le rappeler par rapport au père blanc. vous, si je comprends bien, ce serait la pérévance, ce serait par exemple ce qu'on fait déjà avec la clinique.
Exactement, c'est la pérévance. Bonjour, moi je suis Bob, je suis alcoolique. Par exemple. Par exemple, hein. Pas Bob. Ça, c'est de la pérévance. Ces groupes de patients qui se regroupent, alors c'est dans Fight Club, là, il y a un mec qui vient. T'as déjà vu Fight Club? T'as pas vu Fight Club? Personne n'a vu Fight Club. Si vous voulez voir des groupes de pérévance, c'est un bon film. Hein. Il y a un groupe pour plein de trucs, vous trouvez le cancer, vous êtes proche, des groupes anciens ceci, l'alcool, narcotique anonyme, des motifs anonymes. Oui, imaginez. L'avantage, le pérévin, il n'est pas toujours en groupe, c'est dans le cas d'un
alcoolique anonyme. Le père aidant.
Le père aidant. Est présent. Il y a même un système sophistiqué de parrainage, d'accompagnement.
Et vous avez dans cette petite formule, hein, bonjour, je m'appelle Bob et je suis alcoolique,
une lutte contre quelque chose d'important, qui est un mécanisme de défense que vous avez vu dans le chapitre 1 du cours de psychologie générale. Vous vous souvenez de quel c'était ? C'est du déni, ça s'oublie si vite. Hein. Incroyable. Le déni, si on dit j'ai ceci, j'ai cela, on lutte contre le déni. Il y a un problème, donc on doit traiter ce problème. Alors vous avez différentes ressources pour aller un petit peu plus loin. Telle des matières de référence, c'est du médical Genève Renaud Consoli, aux éditions Masson. Il y a différents chapitres et nous parcourrons ces chapitres après un préambule que nous débuterons. Le cours finit à quelle heure ?
16h30.
Dans 5 minutes, là ?
Oui.
Ah, je vais commencer le préambule. Question donc, la psychologie de la racine, je vous en ai parlé. Inclusion, interrelation ou mode d'être patient. Voit-on ça comme une inclusion, une interrelation? Alors monsieur, par exemple, il aurait vu ça comme ça. Quand même. Un petit médecin avec un grand psychologue. Il faut être un peu corporaliste quand même. Hein. C'est pas la même chose, c'est pas la même étude. Hein. Vous avez encore des dissections, des choses comme ça? On vous étudie un petit peu pour avoir une image globale de l'être humain et de pouvoir mettre tout ça en perspective. Vous ne faites pas la même chose en tant que psychologue. Je ne veux absolument pas discriminer les professions, ce n'est pas le même métier. Et même le psychiatre et le psychologue, ils ne font pas le même métier. Ce n'est pas du tout la même chose. Et de temps en temps, vous rencontrez des gens qui sont un peu frustrés. Moi aussi, j'aurais pu faire un médecin. On n'a qu'à le faire, quoi. Mais juste le simple. Hein, c'est pas le même métier. Et donc, vous voyez dans ce genre de réaction qui peuvent être une sorte d'a priori de partie pris, où vous avez déjà une projection envers l'autre d'une rivalité éventuelle, où l'autre vous voit ça. Comme vous avez fait ceci, vous considérez a priori que l'autre vous aurait comme ça. Il ne s'agit pas de ça. C'est des choses et réalités différentes. Pas. Et donc, vous pourrez écouter ça et réagir. Alors, dans la leçon G2, des questions, hein, origine et limite de la psychologie médicale, quelles sont les représentations de la maladie et du malade, l'impact de l'institution de santé sur l'humain, l'impact du fichisme sur la maladie, l'impact de la maladie sur le fichisme, l'impact du traitement sur le fichisme, l'impact du fichisme sur le traitement, la sériologie de la psychologie médicale. Toutes des questions auxquelles on est en train de répondre. Et donc, pour quand même donner la définition de la psychologie médicale, avant de terminer cette heure de cours, il s'agit de quoi ? De l'étude la plus scientifique possible des données psychologiques mises en jeu par la création d'une situation relationnelle liée à la demande de soins médicaux. Ce dispositif crée des
facteurs qui vont être analysés. Ces facteurs existent-ils quand vous avez commandé des Michelin, je dirais, un chocolat, des croissants, tout ça? Bien sûr que oui. Mais prenez-vous le temps d'analyser tout ça avec le boulanger ou la boulangère? Bien sûr que non. Enfin, pas tout le monde. Du coup, c'est totalement spécifique. Mais le dispositif invite à ce genre de mouvements qui seront analysés dans le cadre du cours de physique médicale. Moi, je vous souhaite une excellente semaine.